There is a Crack in Everything est une exposition qui ouvrira ses portes en janvier 2021 à la galerie Florence Levy à Paris. J'y montrerai des photographies et des peintures. Les photographies ont été faites en 2016. L'exposition est construite autour de leur redécouverte récente, puis de l'assemblage de pièces réalisées en 2019 et 2020. En 2016, donc, accompagnée d'un groupe de chercheurs et d'amis, j'étais allée arpenter deux barrages de haute montagne dans le Valais suisse, la Grande Dixence en premier, puis dans une vallée adjacente, le barrage de Mauvoisin. J'étais fascinée par l'objet, sa forme, prouesse de la modernité, sa fonction, son ambiguïté environnementale, et aussi par sa puissance métaphorique. Nous regardions un objet de pur fantasme de la catastrophe. Tout était question de tension, de rétention, de menaces, de possibles fractures, de débordements. Quand est-ce que la construction craque? Qu'en est-il de la résistance des matériaux, de celle des humains, du monde vivant? Quelle pression peut-on exercer sur un être avant qu'il ne craque? Ou sur une communauté, sur un peuple? Quand surgit l'étincelle qui allume le feu? Quand survient la révolte? La redécouverte de ces images m'a replongée dans l'année 2016. Nous étions en pleine campagne électorale de Donald Trump, de celle de Bolsonaro, les murs s'érigeaient dans les discours et aux frontières. J'ai ensuite contemplé les 4 années passées, la tension accrue tout au long du chemin, la succession de failles, de débordements, de feux allumés, des plus dévastateurs, bien réels ceux-là, aux plus émancipateurs. Me too, Black Lives Matter. J'ai souhaité, dans le cadre de cette exposition, inviter 4 autrices à venir lire leurs textes. Clara Schulman, Ellen Giannichini, Marion Vasseur-Ralluy et Rosana Puyol, cette dernière étant éditrice aussi. Les textes d'Hélène et Clara sont parus en 2019 et 2020. Ceux de Rosana et Marion sont inédits. Ces récits et poèmes, le rapport à l'écriture et aux liens établis dans le processus de travail, s'inscrivent selon moi dans ce que le monde contemporain développe de plus bouleversant. Ils relèvent d'un acte de résistance aussi intime que collectif, qui d'une façon ou d'une autre semble avoir mené chacune d'elles, les autrices, à faire tomber un mur, à fracturer un barrage. There is a crack in everything, that is how the light gets in, a chanté Leonard Cohen. Ces 4 écritures, ces 4 voix font l'objet d'une série de rendez-vous radiophoniques. Marion Vasseur-Ralluy est commissaire d'exposition et autrice. Elle a écrit, en l'occurrence, le communiqué de l'exposition qui donne lieu à ses lectures radiophoniques. Elle écrit dans le cadre du Master Création littéraire de Paris 8, ainsi que pour des publications d'artistes. Le texte qu'elle lit ici est extrait du projet de livre pour Paris 8, Chronique maladie. Rosana Puyol est poète et éditrice, cofondatrice de la maison d'édition Brook, avec laquelle elle publie des traductions. Marion et Rosana ont travaillé toutes les deux avec Mona Varichon pour la traduction d'un recueil de poésie de l'autrice argentine Cecilia Pavone, Bonbon à l'anis, à paraître bientôt chez Brook et Varichon et compagnie.
Je vais lire un texte écrit ces jours-ci entre différents groupes de traduction, différentes lectures. Avec Nina Kennel, Pauline Elboulba, Aminata Labor, Mawena Yewesi, Mona Varichon, Jill Johnston, critique, Agnès Martin, peintre. Je précise parce que c'est comme ça qu'elles se sont glissées, précisément, critique, peintre. Aussi Édouard Glissant, Wu Tsang, Fred Moten. Didi balance intensément. Ok, j'ai envie de remonter un peu plus haut, je vais remonter un peu plus haut. Aucun doute, tous ces gens dans le bateau, ça faisait trop. And you realize how mean we all are. Et de s'ennuyer nous-mêmes. Des idées qu'elles se font sur nous-mêmes avec les idées qu'on se fait de soi-même. Je deal avec la patte velue en moi, d'un coup, par l'œil. Au su plutôt qu'au vu qu'elles nomment parfois souvenirs de la perfection. Études aux mémoires de la perfection. L'océan ne meurt pas, les îles s'élèvent et se brisent. Les îles se lèvent et se cassent. Page 283, Didi. Pour Jill Johnston. Elle finit par un poème d'Agnès. L'océan est sans mort, les îles s'élèvent et se brisent. Un souffle balance, silencieux, un souffle vrille, silencieux, silencieux, battement de sang, si seulement l'idée du temps. Le temps qui pense et me fait penser, j'ai plus le temps. Si seulement l'idée du temps pouvait s'écouler hors de mes cellules et me laisser tranquille, même sur cette plage de rivage. Même sur cette plage, le rivage. Silence à la plage, on quitte le snack. Calme même sur le rivage. Ça quitte la page, c'était le mois de septembre 1973. En fait, il y a presque 50 ans, Jill Johnston, autrice et critique états-unienne, est allée voir la peintre Agnès Martin. C'était pas simple. Agnès a quitté New York pour le Nouveau-Mexique. Un désert pour Jill. Des mottes de terre giclées de balance la terre à Dobby d'Agnès. Lit de rivière asséché, carcasse. Et Agnès apprivoise la bête en elle. Pensez à l'envolée de l'eau, it's updating, that's all. À qui puis-je demander, regarde mon dos. Jill dit qu'Agnès peint le dos au monde. Monte en moi l'obscurité, un trésor de végétation basse. I kind of want to edit the sound. If you want to do this first, you think it will be more useful if we have the sound. Probably, probably. So you want to edit the sound first. Mona. Oui, 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 oui. Qu'est-ce qu'il se passe? I know what you said. Look, you probably want to edit the sound first. There is also a very good plan. Place des prospérités. La richesse. De pleurer enfin en plein feu du feu bouscule le jour à l'aide et pousse contre le mur. J'isole un pan de silence et le déclenche. Puis-je vaguer en tel creux du flot? De pleurer enfin en plein feu du feu. Bouscule le jour, halète et pousse contre le mur. Isole un pan de silence et le déclenche. To you. J'imaginais écrire. Le monde est d'eau, la terre sèche, c'est ça le vers? Earth is water, dry land. Perds le poème, pas quitter la poésie, quitter le poème. Tira, tira, revenir à vous. Des mots de soleil de la conscience montent comme une marée dans ma gorge. C'est un recueil d'Édouard Glissant, Poétique 1. Publié en 56, environ 80 pages. Mais je n'avance pas dans la lecture tellement j'écris, réécris au bord des pages. Cavale marine, alors le manège est consommé. L'homme tombe et embrasse la terre. Les vagues allumées l'étourdissent. L'air fermente et l'élève, mais la terre est en elle, lui, comme une souffrance ineffaçable. Yel a puisé dans l'insolite et torturé son rire. Fermé, cerné, brûlant d'imaginer le reste à son image, il faut qu'elle ouvre, qu'elle s'ouvre, qu'elle voie autre chose, l'autre. Tour à tour, tel naît le poème. Franchis la soie, souffle-toi. C'est ça le vers? Je hais le serpent, avide de lait, qu'un poème brisure d'onde et lapé de terre qu'ensuite, avancé d'une mer après. Avancée d'une vague après colline, ainsi que battement de sang giglé de terre. Balance tes fruitailles, ton lait tourne, t'arrête. Pas dans la splendeur glacée de l'épouvante. Au-dedans du silence et surtout séparé de la paresse, le labeur. Et rien n'était ivresse, germé déjà de sa nuit. Pouce après pouce, je soulève les cris du matin. Je sais l'ordre, le semant, son langage de suceur tout le jour, chercher le jour. À séparer de la paresse, labeur. Et rien n'était ivrait, dévasterait, que ce ne pouvait être un poème qu'ici je dévasterais. Sons of consciousness. Reflet de conscience étincelance. Balance une giclée de terre, Agnès. Jolie nana, si t'as les critères, ça me va. / Accomplissement grave du sommeil. Aux lisières de la portée humide des sillons, brisure d'onde. Depuis le lointain de l'écriture, j'ai oublié you. Ne voit-on plus dans la plaine qu'un chiffonnage? Text is social space et classe au lointain de l'écriture. La mémoire est étroite, ou alors il faut dresser tente, glisse, franchis la soie de ton souffle. La mémoire porte est étroite, ou il faut dresser tente, franchis la soie, souffle-toi. Page 30. On lit exactement. Franchis la soie de ton souffle, franchis la barrière de tes mains, mais au retour, soie de silence. Ta nuit, gravit tes marches pensives. Ta nuit ? La langue reflète la zone de règlement colonial, dit Mabula Soumaoro. Language reflects the zone of colonial rule. Ta nuit ? Langue reflète la zone de règlement colonial. Ta nuit ? Entre deux soutirements de lait, ta nuit, tu ne sais plus si tu acquiesces ou si tu mords, écrit en paysage. Passer table, horizontale pour ce qui suit. Ta nuit entre deux soutirements de lait, ta nuit, tu ne sais plus si tu acquiesces ou si tu mords. Ça veut dire quoi ? Roide. Se révolte du côté du sein et se retire déjà. C'était quoi le vague ? Brisure d'onde, pleure en plein feu du feu, vaguée en tel creux du flot, creux ta nuit et la forêt meuble ta nuit. Titre aussi. Ta nuit et la forêt meuble ta nuit. It's updating, that's all. Nous voici donc quelques-unes très neuves dans la toute-puissance de l'histoire. Not only, this in-betweenness matter. Tu profuses au ras du sol. Nous voici quelques-unes très neuves dans la toute-puissance de l'histoire, assez du moins pour allouer de nouvelles formes à la sensibilité. Maintenant, rassembler les terres, celles qui éprouvent la mesure, la semant, touche. What kind of work does the appearance of silence? Quelle sorte de travail nous fait faire le silence? Deborah Thomas. Glissant, écrit, se transport d'une rive à l'autre. L'événement. Se transport d'une rive à l'autre. S'il y a événement d'écriture, c'est le transportement. Puis, traverser le silence, se désunir, à être radicalement sauf du commun. Sauf du commun ? Tu profuses au ras du sol. Rien de livret, transportement, please. Un dessin. Mon événement fut d'inhabitable. Pourrait-on, on pourrait dire ? Poétique 1, je retourne le livre ouvert, il dresse une tente. Et sur un pan, on lit que le concept est sans cesse relayé par la présence concrète de l'imaginaire. On ne sait jamais vraiment qui écrit dans le dos du livre, ça met en doute tout le livre. Le nom de l'auteur en lettres majuscules, le titre en minuscules rouges, l'extrait entre guillemets, ces quatre lignes qui passent la main à l'extérieur du papier et 97.4 à 74.620 ISBN 978 207 0746 20 0. Tu profuses au ras du sol. Pourrait-on dire, on pourrait, tête roide de livret, perpétuant la ronce autour.
Sur le fauteuil, allongé sur le ventre, les fesses tendues vers le docteur, je sens une tige qui traverse mes fesses et s'enfonce progressivement. Accrochée au fil, une caméra embarquée dévoile les images de mon intestin sur un écran télé. J'assiste, interdite, à la traversée sous-marine de mon gros côlon. Une peau rose et fripée serre l'entrée de mon anus. Un instant, j'entre dans un trou noir, une totale obscurité, avant qu'une lumière jaune ne dévoile mes parois intestinales, striées de faisceaux sanguins. Par moments, le médecin arrête sa course, le long de mon tube digestif, pour effectuer des prélèvements. Sur l'écran, la chair rose percée laisse poindre une petite goutte de sang. Je sens un léger pincement à l'intérieur de moi. Cette douleur lointaine me rappelle à d'autres souffrances abstraites qui se sont trop souvent rendues sourdes. Le jour de cette coloscopie, j'ai 14 ans. Je ne sais pas encore ce dont je suis atteinte. C'est après que j'apprendrai l'existence de la maladie. Dans l'enfance, j'ai toujours manifesté un grand intérêt pour mon pédiatre. Je regardais avec attention tous les objets décoratifs disposés sur son bureau, minutieusement choisis pour détourner l'attention des enfants pendant l'auscultation. Lors de ces rendez-vous, où nous nous rendions toujours, ma mère, ma sœur et moi, je prenais beaucoup de place. J'évoquais avec application mon état de santé et expliquais à travers menus détails ce que je ressentais. Je lui parlais de ce que je mangeais, digérais et déféquais. L'apaisement qu'apportait cette conversation n'avait que peu d'égal. Pendant la séance, ma mère riait et commentait. Ma sœur, elle, restait muette. Dans la série Sharp Objects, l'histoire familiale houleuse de Camille Pricker, journaliste retournant dans sa ville natale, s'entremêle à une enquête policière. Couvrant l'affaire de l'assassinat de deux jeunes adolescentes, elle est rapidement confrontée à ses démons familiaux. À la suite d'une fête arrosée, la mère de Camille administre à elle et sa sœur un sirop qu'elle a préparé. Malgré les soins prodigués, les deux sœurs sont de plus en plus malades, au point que Camille commence à s'inquiéter de l'état de santé de sa cadette. Alors qu'elle se rend dans sa chambre, elle y trouve leur mère à son chevet. Elle prend alors conscience qu'elle est en train de les empoisonner. À travers plusieurs flashbacks, on apprend qu'une autre sœur de Camille est décédée dans l'enfance, non pas d'une maladie, mais d'un empoisonnement graduel. Le syndrome de Munchausen par procuration se caractérise par une forme grave de maltraitance, dans laquelle un parent fin exagère et provoque volontairement des problèmes de santé sérieux et répétés avant de conduire l'enfant auprès d'un médecin. J'ai découvert par la suite de nombreux témoignages à ce sujet, notamment un documentaire qui évoquait le cas d'une mère ayant inventé une maladie de rein à sa fille, falsifiant ses analyses de sang, modifiant des résultats de tests sanguins, la frappant dans les reins avant les rendez-vous médicaux, afin d'attirer l'attention des médecins. À l'âge de 4 ou 5 ans, je suis tombée malade. Une gastro-entérite qui a duré plus d'un mois. J'ai peu de souvenirs, ou alors seulement quelques-uns. Un premier où je me tords le ventre de douleur sur le tapis du salon dans la maison de Beauvais. Un second où je discerne mon corps dans un laboratoire d'analyse. Je vois une aiguille se planter dans mon bras et mon sang, duquel s'échappent des petites bulles d'air. L'infirmière doit s'y prendre à plusieurs reprises avant de trouver la bonne veine. Il y a ce dont je me souviens, il y a surtout ce qui me sera raconté par ma mère. Elle parle de mes selles blanches et de l'après-maladie, quand je déciderai de ne plus manger d'aliments jaunes. Viennoiserie, tarte à la pomme, poisson pané et bananes sont à jamais bannis. C'est ma première rencontre avec la maladie. Elle me rappelle ma première rencontre avec l'art. À 17 ans, je reste muette face à un monochrome bleu d'Yves Klein. J'ai l'impression de découvrir quelque chose que je connais déjà, ou plutôt quelque chose que je ressens déjà. Selle blanche, viennoiserie jaune et monochrome bleu. Mais pour l'instant, la maladie n'a pas de nom, elle n'a pas de forme, elle n'a pas de couleur. Je ne sais pas si elle est dans ma tête, si elle est dans celle de ma mère, si elle est véritablement dans mon corps ou si elle habite le sien. Elle me dira plus tard que j'ai fait une petite hépatite C, diagnostic que les médecins n'ont jamais confirmé. Johanna Edva est une artiste et écrivaine qui a publié en 2014 un texte sous la forme d'un court manifeste intitulé « Sick Woman Theory », théorie d'une femme malade. Elle est atteinte d'une maladie chronique qu'elle définit ainsi. Le mot chronique vient du latin chronos, qui signifie du temps, plus spécifiquement une vie. Ainsi, une maladie chronique est une maladie qui dure toute la vie. En d'autres termes, la situation ne s'améliore pas. Il n'y a pas de remède. Après ma première coloscopie, la médecin a annoncé le diagnostic. Rectocolite hémorragique aiguë. Dans le diagnostic, il y a seulement les symptômes, seulement le nom que porte la maladie. Il n'y a jamais rien d'autre. La RCH est une maladie auto-immune qui affecte le côlon et le rectum. Elle est la cousine de la maladie de Crohn. Dans toute maladie auto-immune, le corps s'attaque à lui-même, car il interprète mal les signes qu'il reçoit. Au lieu de conserver les bonnes bactéries et détruire les mauvaises, il est incapable de faire la distinction. Autrement dit, il s'auto-détruit. Les médecins n'en connaissent pas l'origine. Hérédité, alimentation et stress sont les trois facteurs principaux de développement. Certaines personnes peuvent être indisposées, avoir des envies très régulières d'aller aux toilettes, voire des diarrhées chroniques. Dans des cas les plus extrêmes, il est recommandé d'ôter une partie de l'intestin. J'ai une rectocolite dite proctite. Mon inflammation est limitée au niveau de mon rectum sans s'étendre à l'ensemble du côlon. J'ai régulièrement des muqueuses et des saignements dans mes selles qui s'accompagnent parfois de fausses envies d'aller aux toilettes, particulièrement pendant la période des règles. Il m'arrive de ressentir un état de fatigue généralisée et d'être totalement abattue après une journée ordinaire. Et j'ai des maux de tête chroniques lorsque pendant plusieurs jours, je n'arrive pas à aller aux toilettes. En 2014, alors que plusieurs manifestations Black Lives Matter prennent place à Los Angeles, Johanna Edva est alitée et ne peut pas y aller. Cette frustration va la pousser à parler de son expérience. Elle s'interroge sur la possibilité d'être politisée alors qu'elle ne peut pas se déplacer. Elle relève notamment le caractère binaire de la représentation de l'espace public et de l'espace privé, en tant que l'un est politique, et l'autre pas. Elle dénonce une forme d'exclusion à l'égard des personnes dites malades ou vulnérables. Elle souligne que les formes que prennent l'activisme politique, notamment les manifestations, se construisent en opposition aux forces de l'ordre, et annonce un éventuel affrontement violent. Face au danger, par incapacité physique ou vulnérabilité, certaines personnes ne s'y rendront pas, les rendant invisibles. Récemment, mon état de santé s'est à nouveau dégradé. Alors que je manifestais, que je marchais, que je me rendais dans un vernissage ou que je travaillais, j'ai ressenti de nouveaux symptômes que je n'avais encore jamais contractés, notamment des douleurs intestinales et de fausses envies d'aller aux toilettes, m'obligeant à rompre mon rythme de vie. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai d'autres trêves ou si les symptômes qui se sont réveillés il y a un an ne me quitteront plus. Il me semble qu'il y a des corps qui sont plus sensibles à accueillir des maladies que d'autres, comme s'il y avait la place à l'intérieur de nous pour les héberger. Mon corps a toujours été habité par une crypte, à laquelle je n'accède jamais vraiment, mais qui abrite des morts vivants et des fantômes. C'est cette présence étrangère en moi qui a permis à la maladie de se développer. Comme si du bas du tunnel que forment mes intestins pouvait jaillir un son venu d'avant ma naissance et qui permettrait à certains morts de retrouver leur place. Étrangement, c'est par la maladie, ou plus précisément par la crypte, qu'on puisse échapper d'autres choses, d'autres plaisirs, d'autres jouissances. Car la maladie a créé malgré moi des temps morts que j'ai dû accueillir et occuper autrement. Elle m'a imposé un autre rythme, proche de la réalité des faiblesses du corps. Dans ces interstices où je ne peux plus être productive, je suis devenue une caverne, sur laquelle des peintures d'un autre âge sont apparues. Mon intestin est devenu le cuir sur lequel j'ai pu voir se dessiner des œuvres. Le trou noir en moi, qui aspire les bonnes et mauvaises bactéries, parce qu'il tolère et détruit, a aussi accueilli l'histoire de l'art et des mondes d'avant moi. Ma crypte renferme tout et fuit de partout. Elle détient le passé, le présent, le futur. Elle est imprévisible, insondable, indivisible, inaltérable. Elle est ce qui est le plus proche de moi et ce qui m'éloigne le plus de ce que je suis. Ma crypte produit de l'art et de la littérature. Elle produit des flux gastriques, des muqueuses blanches, des bains de sang. Elle est mon poison et mon remède. Elle est la faille avant la lumière.
On voit bien que la poésie n'est pas en balance ici. Et qu'ensemble, je tends à l'y engager, ne pouvant autrement. Cependant, la difficulté majeure est encore du sens et de la gouverne de la prose. Ce que je voudrais établir d'abord, c'est la quasi-nécessité d'un chaos d'écriture dans le temps où l'être est tout chaos, c'est-à-dire comment l'expression suit la même épure que l'individu. Mais pourquoi et quand l'être serait-il tout chaos ? C'est quand, par exemple, s'éprouvant comme lancé dans une aventure très collective, dans le commencement de quelque périple nouveau, ébloui, il s'ébat, tenté par mille directions successivement, avant de trouver son ordre. Édouard Glissant, Soleil de la conscience.